Vous savez, quelquefois, ça peut déclencher des choses incroyables. Pour ceux qui sont peut-être, vous suivez peut-être pas trop la politique française, mais il y a quelques années, on a eu un ministre de la Santé qui s'appelait Georgina Dufoy. Et ce qui s'est passé pour elle, comment elle a rencontré le Seigneur, il y a un pasteur qui a eu à cœur de lui téléphoner. Et puis une fois, deux fois, trois fois, elle en avait un peu marre, d'après ce que j'ai compris, mais bon, elle l'écoutait quand même. Et c'est comme ça qu'elle est venue au Seigneur et qu'elle est vraiment engagée avec le Seigneur. Après, elle a été ministre de la Santé. Beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, mais elle est restée fidèle au Seigneur. Et vous ne savez pas à qui vous témoignez. Ça peut être des gens qui vont avoir un rôle important dans leur sphère d'influence. Et donc, je pense aussi à Yon Kisho. Yon Kisho, c'est simplement... il était malade, il avait la tuberculose, je crois. C'était... il y a longtemps, quand la tuberculose était encore d'actualité. Et il y a une jeune fille qui lui a parlé de Jésus. Il ne voulait pas trop entendre. Et puis, elle est revenue, elle lui en a reparlé. Et puis, un jour, avant de mourir, parce qu'il était arrivé au bout du rouleau, il a accepté Jésus dans son cœur. Et il a été à l'origine d'un mouvement évangélique formidable en Corée. Vous pouvez témoigner à une personne. Et vous ne savez pas combien de gens cette personne va amener au Seigneur derrière. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et c'est vrai que c'est un bon rappel de parler, de prier pour les gens qu'on croise. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Voilà. Alors, on va reprendre la vie d'Élisée. Et donc là, je suis obligée, à cause des textes d'aujourd'hui, de revoir le contexte qui a précédé. Alors, je vous explique. Quand j'ai vu que je devais parler sur la purification de l'eau, c'est donc 2 Rois, chapitre 2, verset 19, et puis ensuite de cette histoire des ours qui ont attaqué les jeunes. Malheureusement, la traduction dit les enfants. Je me suis dit, ah non, moi je ne peux pas prêcher là-dessus, c'est pas possible. C'est des textes difficiles à comprendre. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même les lire. Et puis, si je ne me sens pas, bah, tant pis, on sautera ces passages-là parce qu'ils sont très compliqués. Les commentateurs se battent un peu là-dessus. J'ai dit, qui suis-je pour parler de ça? Et puis, je me suis dit, tiens, on va quand même remonter dans le contexte. Qui sont ces gens? Qui sont ces fameux enfants qui ont été attaqués par les ours? Pourquoi? Où? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous savez, quand on a un texte comme ça dans la Bible, qui nous pose problème, incroyable, pas possible, etc. Regardez un peu le contexte, remontez un tout petit peu. Et du coup, j'ai suivi mes propres conseils et j'ai dit, je vais reprendre le premier chapitre. Alors, je crois qu'on l'a affiché là, le premier chapitre. Le chapitre 2, pardon. Le chapitre qui précède, c'était... Deux rois. Alors, je ne vais pas le lire, par contre, je vais simplement le recommander assez rapidement. Donc, vous souvenez, on avait parlé de la vie d'Élie pendant un certain temps. Et puis, là, Dieu avait promis à Élie qu'il aurait un successeur. Il fallait aller loindre d'huile, comme c'était la coutume. Et ce serait le successeur du prophète Élie, donc Élisée serait prophète après lui. Et là, c'est un jour assez important pour Élisée parce que Élie lui dit « Je vais être enlevé par le Seigneur. » C'était un choc quand même. Ça faisait des mois et peut-être des années qu'il avait suivi le prophète Élie. Malheureusement, il n'y a rien dans le texte qui nous permet de dire combien de temps, mais il y a quelques petites indications qui nous montrent qu'ils avaient marché ensemble depuis longtemps. Des mois, des années, on ne sait pas. Il a suivi le prophète comme un disciple suit son maître, et vous savez que c'était courant à l'époque, et puis même encore au temps de Jésus, 700-800 ans plus tard, c'était encore courant, un rabbi, un maître, a emmené avec lui ses disciples, et puis il les instruisait au fil des jours qu'ils passaient ensemble. Certainement plus agréable que l'école, parce qu'ils étaient dehors déjà. Mais voilà, c'était comme ça. Malheureusement, ils en avaient un, deux. Jésus en avait 12. Ouais, c'était pas des grandes classes. Ce jour-là, Élie, Élisée, et puis même les prophètes de Jéricho et de Bethel, savent qu'Élie va être enlevé au ciel. Mais quelque chose de curieux, c'est que Élisée refuse qu'on lui en parle. Chaque fois que les prophètes lui en parlent, il dit taisez-vous. Et là, on voit bien pourquoi. Ça lui faisait quand même mal au cœur. Ils avaient marché ensemble depuis longtemps. Il n'a pas envie qu'on lui en parle. C'est normal. Tu sais, il va partir, hein, tu seras tout seul, hein, ton maître va s'en aller. C'était pas très plaisant. Et chaque fois, il répond, taisez-vous. Donc, vous le voyez là sur le texte. Leur itinéraire est intéressant. C'est important parce que ça va nous servir pour comprendre les deux autres textes. Ils démarrent de Gilgal. Alors, j'ai oublié de photocopier une carte, mais vous avez Gilgal, Jéricho et Bethel sur la carte. Donc, ils démarrent de Gilgal, ils vont à Bethel, ils redescendent sur Jéricho et ils vont au bord du Jourdain qui était à, j'ai regardé sur la carte avec l'échelle, à peu près 5 km. Ils vont au bord du Jourdain et c'est là qu'ils vont traverser le Jourdain et Élie va être enlevé. Donc, vous voyez, l'itinéraire est intéressant. Ils partent de Gilgal, Bethel, Jéricho, et ils vont traverser le Jourdain. Voilà, c'est important. D'abord à Gilgal, déjà. Élie demande à Élisée de ne pas venir avec lui. Élisée dit, je ne te quitterai pas. Bon, ok. Donc, ils vont de Gilgal à Bethel. À Bethel, les prophètes viennent poser la question à Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître? C'est sympa quand même. Élie, déjà il leur dit de se taire, et puis Élie demande, ne me suis pas, je vais partir à Jéricho. Et bien sûr, Élisée répond, je ne te quitterai pas. Deuxième fois. Et puis, une fois à Jéricho, là, les prophètes de Jéricho, donc, vous voyez qu'il en restait, hein, quand Élie était découragé, Dieu lui avait répondu, on a 7 000, hein, qui n'ont pas fléchi le genou. Donc, il faisait visiblement partie de ces gens-là. Les prophètes demandent à Élisée s'il est au courant que le Seigneur va reprendre, et à chaque fois, il répond, taisez-vous. Même réponse. Élie encore lui redemande, ça devait être agaçant quand même, reste là, le Seigneur m'envoie au Jourdain. Et il répond, je ne te quitterai pas. 3 fois. Alors, pour ceux qui connaissent leur Bible, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Qui est-ce qui avait dit? Reste là. Ruth et Naomi. Sa belle-mère retourne de Moab en Israël et elle dit, allez, les filles, elle avait deux belles-filles, les garçons étaient morts. Oh ben écoutez, restez dans votre pays à Moab, etc. Et puis, sur le coup, toutes les deux disent non, non, on va t'accompagner. Puis, quand même, une qui finit par rester et rejoindre sa famille. Mais Ruth, elle bouge pas. Je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Et vous voyez, 3 fois. 3 fois dans la Bible, ça a un sens. Ça veut dire que la personne est sûre et certaine de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas. Je ne te quitterai pas. 3 fois. C'est clair, précis. Élisée veut aller jusqu'au bout avec son maître. Intéressant. Arrivé au bord du Jourdain, donc vous vous rappelez, Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Donc 5 km plus loin. Arrivé au bord du Jourdain, on remarque qu'il y a 50 hommes de la ville de Jéricho qui les ont suivis. Ils arrivent et ils s'arrêtent à une courte distance. Ils regardent ce qui se passe. Ah, les prophètes de Jéricho, là, ils m'intéressent. Quoi, ils ont suivi? On remarque au passage que ceux de Bethel, non. Élie décide de traverser le fleuve. Il frappe les eaux avec son manteau qu'il a enroulé. Et Élie et Élisée vont passer à sec. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La traversée avec Josué en Canaan. Et puis bien sûr, la traversée de la mer Rouge avec Moïse avant. Donc, ils connaissent, hein, ils connaissent leurs exemples dans l'Ancien Testament, même si oui, c'était écrit à l'époque, mais c'était sur des rouleaux. Et il y a un verset qui m'intéresse là, c'est que, alors là, franchement, imaginez, le fleuve s'ouvre, passé relativement à sec, donc, et qu'est-ce qu'ils font en traversant? Enfin, moi, je sais ce que j'aurais fait. J'aurais regardé à droite, à gauche pendant toute la traversée et j'aurais marché très vite! ils ont une telle confiance en Dieu. La Bible dit qu'ils continuaient à marcher en parlant. Ils discutent. Et je m'étais demandé, mais pourquoi faire tout ce trajet, tout ça pour retourner presque au point de départ et puis être enlevé par le Seigneur ? Ben, ils ont parlé, c'était le dernier jour. Ils ont continué à marcher en parlant. Finalement, est-ce que Dieu avait instruit Élie ? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais tout ce trajet, alors ça faisait en tout, ça devait faire plus de 30 km, hein. Gilgal, Jéricho, Bethel et la traversée du Jourdain, ça faisait certainement plus de 30 km. Ils ont discuté ensemble. C'était le dernier jour. Élisée avait des tas de choses à transmettre à Élie avant de partir. Ils ont parlé ensemble. Et ça, c'est incroyable. Et puis, au cours de cette conversation, Élie propose une sorte de cadeau de départ à son disciple. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois pris d'auprès de toi. Waouh ! Je ne sais pas ce que j'aurais demandé. Moi, j'ai réfléchi, je me dis, oh, j'aurais demandé d'avoir moins de problèmes que lui, d'être moins confronté à des rois idolâtres, et puis etc., etc. Enfin, que la vie soit plus facile. Mais Élisée avait tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu. Il aurait pu demander des tas de bénédictions pour lui-même. Il en avait besoin. La vie de prophète, comme ça, itinérant, c'était assez, assez pénible. On a vu que même Élie est tombé dans une dépression. Mais il savait qu'il devait répondre à l'appel de Dieu et il devait exercer le même ministère qu'Élie, c'était clair dans sa tête. Avec tous les problèmes et les dangers au milieu d'un peuple complètement rebelle et idolâtre. Donc, c'était pas un beau programme, hein. Pour un prophète, c'était pas triste. Alors il va demander le plus important. Vous vous souvenez, Salomon, il avait demandé la sagesse. Lui, il demande, je trouve, quelque chose de plus important encore. Il demande le plus important, une double part de l'esprit d'Élie. Et il est logique, hein. Si je dois affronter les mêmes difficultés avec le même type de gens, avec des rois idolâtres, etc., ce que j'ai besoin, c'est de deux fois plus d'esprit de Dieu que ce qu'il a sur lui. Parce que, misère, qu'est-ce qu'il a enduré, mon ami Élie ? Et ça, c'est quelque chose qui me parle aussi, parce qu'Élie ne regarde pas à l'homme. Élisée ne regarde pas à l'homme. Parce qu'il aurait pu dire, oh, bah, je vais être aussi important que toi, je veux faire des grands miracles comme toi, je veux, etc. Non, 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 il ne regarde pas à l'homme, il regarde à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, j'en veux deux fois plus. Ce que Dieu t'a donné. Et il est bien sûr attaché à la personne d'Élie, il veut le suivre jusqu'au bout, mais il est conscient que ce qui fait que le prophète Élie est un personnage exceptionnel, ce n'est pas son caractère, ce n'est pas les miracles qu'il a accomplis, c'est pas, je sais pas, sa façon de faire des discours ou de s'imposer devant le peuple, son courage. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et pour nous, c'est un avertissement. Dans cette période où les chrétiens aujourd'hui demandent, ont tendance à vouloir des miracles spectaculaires, et on en veut aussi des miracles, hein, mais pas pour le spectacle, pour que ce soit des signes qui amènent les gens au salut. C'est le pourquoi on les demande qui est important. Et là, il ne regarde pas au bonhomme. Il ne regarde pas tout ce qu'il a fait de bien, etc. Il regarde quelle est la cause de la grandeur d'Élie. C'était que le Saint-Esprit était sur lui. Que l'Esprit de Dieu agissait au travers de lui. Et qu'Élie était capable de laisser le Saint-Esprit agir au travers de lui. Vous savez, quand il s'est dressé sur le mont Carmel pour dire « On va voir aujourd'hui qui est Dieu en Israël », non, un homme ne pouvait pas faire ça tout seul. Hein. Il avait 600 prophètes de Baal devant lui. La reine avait déjà tué pas mal de prophètes de l'Éternel. Non, mais il avait ce courage extraordinaire, envers et contre tout, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et souvent, on est impressionné par tel ou tel évangéliste ou autre qui fait des tas de miracles, etc. Oublions la personne, mais regardons l'Esprit de Dieu qui agit. Vous savez, parfois, j'ai connu, maintenant en vieillissant, hein, on a pas mal d'expérience, j'ai connu des gens qui ont fait des miracles extraordinaires, c'était en Afrique du Nord, je me souviens, il y a des années, et cette personne vivait une vie qui n'était pas du tout en accord avec le Seigneur. Elle s'est repentie, elle est revenue au Seigneur, C'est merveilleux. Mais cet homme, mais n'empêche qu'il y avait des miracles. Donc qui faisait les miracles? L'Esprit de Dieu. Et ce qu'on peut admirer chez quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Mais la personne, comme dit la Bible, Élie était de la même nature que nous. Sujet à la dépression, sujet au découragement, sujet à la rouspétance aussi. Moi, je me reconnais bien là. Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Puis regarde. Voilà. Hein? Un homme de la même nature que nous. Mais l'Esprit de Dieu était là. Hein? Et donc, c'est ce qu'il va demander. Il est conscient que c'est l'Esprit de Dieu qui fait du prophète Élie un personnage exceptionnel. C'est parce que l'Esprit de Dieu l'habite. Et c'est ce dont il va avoir besoin dans toute sa carrière pour servir Dieu. Alors la réponse d'Élie aussi me plaît. Autant la question d'Élisée me plaît, autant la réponse d'Élie est intéressante. Ouh, tu demandes une chose difficile? Parce qu'il avait dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il pouvait y faire, le pauvre Élie? Je, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me demandes un truc, franchement, ce que tu me demandes là est très difficile. Ce que tu veux que je fasse pour toi? Seul Dieu pouvait faire ça. Et alors, il ne se prononce pas trop, Élie, hein, il est d'une grande sagesse. Il dit, si tu me vois, pendant que je serai pris d'auprès de toi, ça va t'arriver ainsi. Tu auras cette double portion, cette double part de l'Esprit. Mais si tu ne me vois pas, ben c'est que ça n'arrivera pas. Bon, c'est pas très encourageant. Moi, j'aime pas trop quand les gens me répondent comme ça, hein, parce que ça vous déstabilise un peu. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Mais il était honnête. Le message était clair. Mon petit Élisée, il n'arrivera que ce que Dieu veut. Et moi, je n'y peux rien, et toi non plus. On va s'attendre à Dieu. Ça sera la décision de Dieu. Et puis, bien sûr, Élisée voit Élie monter au ciel dans un tourbillon, dans un vent. Il y a souvent les traductions. Alors, j'ai regardé plusieurs traductions. Une tempête, un vent violent. Et il le voit partir. Et sa première réaction, c'est « Père, Père, il crie !» Parce que c'était quand même, faut se mettre à sa place, c'était choquant. C'est pas des choses qui arrivent souvent. Et puis, au bout d'un moment, il ne voit plus rien. Et là, il rentre dans le deuil, il déchire ses vêtements. C'était un signe de deuil à cette époque-là. Et il fait quelque chose de très symbolique, de très important. Il va ramasser le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'était pas pour rien qu'Élie avait laissé tomber son manteau. C'était très symbolique. À l'époque, c'était, tout le monde comprenait ce genre de symbole. Tu reprends le manteau, ça veut dire tu prends la suite. Tu prends le manteau, il ramasse le manteau d'Élie. Et puis, il va refaire le trajet à l'envers. Donc là, on est au bord du Jourdain. Et il va donc retourner le plus proche, Jéricho. Mais pour ça, il fallait qu'il repasse à sec. Il n'y avait pas de pont. Hein. Donc, il reprend le manteau d'Élie, il fait pareil. Et j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il ne dit pas où est Élie. Il a bien compris que l'homme, c'est l'homme, mais Dieu, c'est Dieu. Et c'est lui, c'est Dieu qui va ouvrir le chemin. Moi, je m'adresse au même Dieu qu'Élie, au même Dieu tout-puissant. Il se trouve que c'est le même que le nôtre. Hein. Et il frappe l'eau et il passe à sec. Là, il n'avait personne avec qui causer. Les prophètes de Jéricho qui étaient en face, là, ils voient ce miracle. Et on voit ça au verset 15. Ils voient le miracle. Et qu'est-ce qu'ils comprennent, les prophètes de Jéricho? Mais l'esprit d'Élie s'est posé sur Élisée. C'est ce qu'ils disent. Hein, eux, ils ont tout compris tout de suite. Et ils vont se prosterner devant Élisée. Alors, ce n'était pas de l'adoration, c'était une part de respect. Attention. Signe de grand respect. Ça veut dire qu'ils le reconnaissent comme le successeur d'Élie. Ils sont donc en accord avec la volonté de Dieu. Dieu avait dit à Élie, tu vas oindre Élisée pour être ton successeur. Là, les prophètes de Jéricho, 20 sur 20, ils ont tout compris. Mais ils ont eu, eux, cette idée d'aller jusqu'au bord du Jourdain pour voir ce qui se passait. Les prophètes de Bethel, ils n'ont pas bougé. Ils veulent vérifier si Élie n'a pas été déposé quelque part par le Seigneur, quand même. Pauvre Élie, il est peut-être quelque part, si Dieu l'a laissé, moi j'aime bien leur réflexion, peut-être que Dieu l'a laissé là, quelque part dans les collines ou ailleurs. Est-ce qu'on peut aller voir? Élie, évidemment, qui a tout vu, dit, mais non, n'y allez pas. Ah, mais quand même, ils insistent. À la fin, Élie dit, allez-y, hein, Allez-y. Et voilà les 50 hommes qui, pendant 3 jours, vont écumer toute la région sur pas mal de kilomètres. Hein. Je pense qu'ils ont dû se répartir. Et puis, ils n'ont rien trouvé, évidemment. Donc, ils reviennent. Mais quelque part, ils sont allés jusqu'au bout de leur recherche. Et c'est ça que j'aime bien chez les prophètes de Jéricho. D'une part, ils ont suivi. Et d'autre part, ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à même vérifier que Élie n'avait pas été déposé quelque part. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un qui vérifiait dans la Bible? Les Béréens. Paul parle de ces Béréens. Chaque fois que Paul prêchait, il prenait les rouleaux de la loi et il regardait si Paul disait bien vrai. Bravo, c'est ça qu'il faut faire. Vous savez, les gens qui prêchent, que ce soit nous ici ou n'importe où ailleurs, sur Internet, etc., ben ce sont des humains. Et donc, de temps en temps, ils peuvent glisser, ils peuvent dire, ou bien peut-être aussi nous, on peut comprendre de travers. Donc, le mieux, c'est de toujours vérifier dans la parole de Dieu. Pour ça, il faut la connaître. Pour ça, il faut la lire, il faut la travailler. Même quand, comme pour moi aujourd'hui, j'ai failli passer au-dessus parce que vraiment, je ne voyais pas ce qu'il fallait dire. Et vous allez voir, c'est amusant quand on cherche. On trouve, je crois avoir trouvé, vous allez me dire après. Donc ils ont vérifié, malgré ce que Élisée avait dit. Élie, évidemment, lui, il est certain, mais il veut leur faire plaisir. Et quand il rentre, j'aime bien, ne vous avais-je pas dit? Ah, il est vraiment un homme de la même nature que nous, hein. Ça vous arrive jamais de dire à vos enfants ou à vos amis, ben, je t'avais bien dit, hein? Eh ben oui, il est pareil que nous, il dit, ben, ne vous avais-je pas dit? Bien sûr. Ah là là, Élisée. Élisée, je ne sais pas pourquoi, il reste à Jéricho. La Bible dit qu'il est resté à Jéricho. Et là, les prophètes sont revenus de leur recherche. Ils ont reconnu qu'Élisée est bien le successeur d'Élie. Ils le respectent. Ils vont donc lui confier leurs problèmes. Ceci étant, ceux de Bethel, on ne les voit toujours pas. Alors ils disent. On va le lire, parce que ça, c'est pas très long. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Alors là, vous avez toutes sortes de traductions. Il y a des traductions qui parlent d'infertilité, même d'avortement, de fausses couches, aussi bien chez les animaux que chez les humains. Bref, ça produit pas, quoi. C'est pour ça, bon, cette traduction, elle est plus générique. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça. Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Et l'eau est toujours saine aujourd'hui, 23 degrés, elle sort, ils appellent ça la fontaine d'Élisée aujourd'hui. Voilà. Toujours saine aujourd'hui. Donc quand ils écrivent ça, c'était. Je ne sais pas, peut-être 700 ans avant Jésus-Christ, mais elle est toujours saine aujourd'hui. Alors, là, on a un problème. Les gens disent la ville est agréable, mais l'eau est mauvaise. Alors, pourquoi il y a un tel problème à Jéricho? Parce que l'eau, hein, c'est indispensable. Alors, si vous regardez dans Juges 3,13 ou Deutéronome 34, 3, on appelle Jéricho la ville des palmiers. Donc c'est une belle ville. C'est un bel endroit, bien situé. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils reconnaissent le bon côté. Mais, la source, alors on pense que c'est celle-là, hein, qui est à 2 km au nord-ouest de Jéricho, au pied des collines. Elle s'est appelée longtemps la source du sultan, mais les chrétiens l'ont appelée la fontaine d'Élysée. Pourquoi l'eau est mauvaise? On peut se poser la question. Exode 23, 25 évoque la bénédiction de Dieu sur les ressources en eau et sur la productivité de la terre. Mais il y a une condition. Si le peuple n'adore pas les idoles des peuples environnants. Ah! Et il y a un problème en plus à Jéricho. La ville de Jéricho a été maudite par Josué. Oh, vous vous souvenez, ils ont fait la conquête de Jéricho, hein? Et puis. Juste après sa destruction, elle a été maudite par Josué et dit que celui qui voudra reconstruire les murs le fera aux dépens avec ses deux fils mourront, l'aîné au début de la construction, je crois, et le cadet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et curieusement, c'est un homme de Bethel qui avait décidé de reconstruire. Donc ça veut dire qu'à Bethel, on ne tenait pas trop compte de la parole de Dieu. Hein. Pas trop, hein. Parce que, quand même, une malédiction pareille, quand vous avez deux garçons en plus, c'était pas le truc à faire. Hein. Mais il l'a fait. Pff, c'est des histoires. Je pense que c'est Dieu. Des bobards, tout ça. Il l'a fait, il a perdu ses deux fils. La malédiction s'est accomplie. Alors, il l'a en plus reconstruit sous le règne idolâtre d'Akab. Donc là, on est vraiment dans l'idolâtrie. Élisée, il voit bien le problème des habitants. Il connaît l'histoire de Jéricho, hein, bien sûr. Et il va voir, au lieu d'y voir là, oh, les pauvres, quelle malédiction ils subissent, leur eau n'est pas bonne. En plus, c'est une ville maudite, le gars qui vient de la reconstruire il y a, je sais pas, quelques années avant, hein, sous Akab. Il a perdu ses deux fils, oh, quelle tristesse. Élisée, il voit dans le problème des habitants de Jéricho une occasion de glorifier Dieu. Doublement. Alors, il leur demande un plat neuf et du sel. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai cherché. Les seules choses que j'ai trouvées, c'est qu'un plat neuf, c'était, pour les Juifs, c'était l'idée qui n'est pas servie à un usage profane. Quand c'était pour Dieu ou pour le temple, il fallait que ce soit un plat neuf. Le sel, bon, alors ça, on le sait, symbole de purification. Vous savez ça dans Lévitique, dans Ézéchiel aussi. Et c'est aussi un symbole de pérennité. De l'alliance, hein, on mangeait du sel par exemple avec quelqu'un pour renforcer une alliance, la rendre pérenne. Parce que le sel est un conservateur, on a ça dans Lévitique, de Chroniques, etc. Et puis, c'est un symbole de l'action divine qui opère la purification. Voilà. Je n'ai pas trouvé autre chose. Mais bon, il demande ça. On ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va purifier la source. Surtout que ça coule, donc ça ne reste pas. Mais malgré le recours à des objets matériels, utilisés, je crois, pour leur valeur symbolique, plus qu'autre chose, il est clair que ce n'est pas ça qui va assainir. Par contre, qu'est-ce qui va assainir et briser la malédiction sur Jéricho ? C'est la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Voici ce que dit l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Ou d'une autre traduction dit, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Waouh ! La malédiction est brisée par la parole de Dieu. Bon, le sel et le plat, rôle symbolique, mais c'est la parole de Dieu. Et il le dit très clairement, hein, il dit, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine. Et si l'eau est saine, bah c'est toute la vie de la ville qui devient super. Et l'acte d'Élisée est un témoignage de la miséricorde de Dieu pour une communauté en détresse qui s'est tournée vers lui. Et moi, j'irai plus loin. On peut être sous une malédiction, ça peut arriver. Mais Dieu brise les malédictions. C'est la parole de Dieu. Alors, vous savez, les gens, parfois, ils vont de sorcier en sorcier, ou même en France, hein, faut pas rêver, pour briser la malédiction. Ils sentent bien qu'ils ont une malédiction sur leur vie, sur tout ce qu'ils font, etc. Ça arrive, hein, c'est plus courant qu'on le croit. De toute façon, quand vous voyez toutes les petites annonces dans les journaux de sorciers qui prétendent briser des malédictions, etc., c'est encore bien d'actualité. Même des gens du gouvernement qui font ce genre de choses. Mais la parole de Dieu brise les malédictions. On n'est pas obligé de rester sous cette malédiction. Et vous savez ce que je trouve formidable chez les gens de Jéricho ? Ils vivaient sous une malédiction. La malédiction s'était réalisée sur celui qui avait reconstruit. Mais ils ont suivi Élie et Élisée. Ils sont allés jusqu'au bord du fleuve. Ils ont voulu voir ce qui se passait. Ils ont voulu vérifier qu'Élie n'avait pas été largué quelque part. Et après, ils ont eu confiance dans le successeur d'Élie et ils lui ont posé leurs problèmes. Et Élisée a prié, a prononcé la parole du Seigneur. Et la malédiction sur Jéricho a été brisée. Et je pense que c'est pareil, si vous vous sentez sous une malédiction, c'est possible, ça arrive. La parole de Dieu est puissante. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce verset qui dit « L'onction brise le joug ». Parfois on a l'impression qu'on a sur les épaules un poids, qu'on a quelque chose qui écrase. L'onction brise le joug. Alors il y a différentes traductions, hein. Peu importe. L'idée c'est que c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut faire éclater le joug. Il y a une traduction qui dit la graisse de... Donc vous imaginez le joug sur le dos du bœuf, puis la graisse le fait casser. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Et on n'est pas obligé de rester sous une malédiction. On n'est pas obligé de rester, je crois pas, de son moi, il m'arrive toujours des trucs. On n'est pas obligé. C'est un choix. Les gens de Jéricho ont fait ce choix. Ils ont senti que Dieu était là. Ils ont suivi, ils ont attendu, ils ont observé, ils ont posé des questions, ils ont cherché. Et après, ils ont confié leurs problèmes. Et leur problème a été résolu. Alors, franchement, moi je les admire. Ils ont été persévérants et ils ont gagné la victoire. Et je pense que c'est pareil pour chacun d'entre nous. Si on sent quelque chose, « Oh, mais moi, je vais te... ça tombe toujours comme ça pour moi. Ah, oh, ça se tourne toujours comme ça. » Attention, l'onction brise le joug. La puissance de Dieu est là, la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas le sel, ce n'est pas le plat. C'est la parole de Dieu qui a été donnée à Élisée. Hein? Et ça, j'aime beaucoup ce texte. Alors maintenant, on a un gros problème. De là, Élisée monta à Bethel. Alors, ça y est, il repart. Vous voyez, il fait le trajet dans l'autre sens maintenant. Jourdain, Jéricho, Bethel. Ah. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Alors, problème de traduction. Les jeunes garçons, on va le voir tout à l'heure, c'était pas des petits enfants. Malheureusement, Segon a eu le malheur de traduire enfant, petit enfant. Sortir de la ville et se moquèrent de lui. Sortir de la ville de Bethel et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit. Oh, Élisée, tu viens de briser une malédiction et tu vas maudire des enfants. Alors, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ses jeunes. De là, il alla au Mont Carmel, puis il retourna en Samarie. Oh, je me suis dit, non, Seigneur, moi, je peux pas faire l'étude biblique là-dessus. C'est pas possible. Dans une église qui vraiment a un ministère pour les enfants, les jeunes, non. Mais bon, comme j'avais fait cette recherche, vous allez voir. D'abord, problème de traduction. Le mot hébreu, c'est Nahar. Alors, je vous dis ce que les spécialistes disent, hein, c'est pas moi. Ça peut représenter un bébé. C'est le cas de Exode 2. Moïse, vous êtes dans le panier ? Nahar. Bon. Ça peut représenter un enfant ou un jeune adulte, un adolescent. Par exemple, le serviteur d'Abraham, vous savez, quand il va pour le sacrifice, Genèse 2:12. Non, c'est pas 2. J'ai dû me tromper. Ça doit être 12. Genèse 22:5, ça représente, c'est le mot pour Isaac au moment du sacrifice. Bon, c'est pas un petit enfant, hein. 2 Samuel 18:5, Absalom, qui a soulevé une armée contre son père. Il était loin d'être un enfant, hein. Absalom est appelé Nahar. Donc, je me demande si quelque part, linguistiquement, c'est pas l'équivalent d'un jeune. Parce que parfois, on dit, oh, ouais, t'es jeune, moi j'ai déjà entendu, suivant les régions, t'es jeune, bah, c'est des petits-enfants, et parfois, c'est des adolescents. Donc, vous voyez là, on a Moïse bébé, le serviteur d'Abraham, Isaac au moment de sacrifice, le jeune Absalom. Vous voyez que ça peut être un enfant, un adolescent, ou même carrément un adulte. Il est clair ici qu'il s'agit d'une bande d'adolescents. Qui est-ce qui se balade en bande ? Hein, franchement. De toute éternité, les adolescents aiment bien être en groupe. Donc, là déjà, c'est clair. Mais bon, ça n'aide pas tout. Hein. Alors, ils viennent d'où, ces jeunes adolescents ? Ils viennent de Bethel. Ah tiens, tiens, on retrouve Bethel. Bethel. Ils y étaient passés, Élisée. Les fils des prophètes étaient venus le voir. Donc, tu sais qu'il faut, Dieu va enlever ton maître, mais ils ne sont pas allés plus loin. Vous avez vu ce Jéricho qui ont suivi, qui ont cherché Bethel. Ils sont contentés de titiller un peu Élisée. Ils sont rentrés chez eux. Mais à Bethel, il y a pire. À Bethel, il y avait un veau d'or qui était adoré par les Israélites, parce que le roi ne voulait pas qu'ils aillent adorer au temple de Jérusalem, vu que les deux États s'étaient séparés. Chacun son autel. Il y en a qui vont adorer à Jérusalem, c'est les tribus de Juda et Benjamin, puis les autres en Israël, tribus du Nord, ils vont adorer les veaux d'or. Bah tiens, curieux quand même. Curieux quand on voit la colère de Moïse avec le veau d'or. Moi j'ai du mal à comprendre, mais bon, c'est humain. Alors, le nombre de non-croyants et d'Israélites idolâtres devait être énorme à Bethel. Ça devait être énorme. Et la vie des prophètes ne devait pas être facile dans cette ville. Il y en avait, puisque Dieu l'avait dit à Élisée, il y en avait, on les a vus, ils ont parlé avec Élie et Élisée, mais on ne les a pas revus après. Alors, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que le départ d'Élie, ça devait être un sacré sujet de conversation quand même, dans un pays où le téléphone arabe marche très très bien. Ça devait y aller, hein? Non, je ne sais pas ce qui est arrivé, prophète Élie. Ça devait être un sujet de conversation dans la région, parce que les fils des prophètes en ont parlé librement à Élisée, comme ça, quand il est passé. Donc, ils en ont parlé librement à tout le monde. Ces jeunes gens, ils savaient qui était Élie, ça c'est sûr. Ça faisait longtemps qu'ils sévissaient dans la région. Pas de souci, ils savaient qui était Élisée. Ça a parlé. Le miracle de l'eau de Jéricho s'était produit peut-être une semaine ou deux avant, hein, parce qu'il fallait... Il est resté un peu à Jéricho, Élisée. Ils ne disent pas combien de temps. Donc, c'était arrivé à leurs oreilles, les habitants de Bethel, donc les jeunes étaient au courant. Et puis, le miracle du passage du Jourdain, qui a montré à tout le monde qu'Élisée était bien le successeur d'Élie. Donc, ils savaient tout ça, les petits jeunes, là. Ils savaient tout ça. Parce que, vous voyez, quand on imagine une bande de petits garçons de 7-8 ans qui vont juste faire une blague à un monsieur chauve, c'est pas du tout. Si vous regardez le contexte attentivement, c'est pas ça. Autre chose, j'ai cherché hein, parce que je me suis dit non, ce texte il est épouvantable. Chauve. Chauve, c'est une des pires insultes au Moyen-Orient, paraît-il, encore aujourd'hui. Parce que l'abondance de cheveux est perçue encore aujourd'hui comme un signe de force et de vigueur. Bon. Et c'est pas du tout sûr qu'Élisée soit réellement chauve. Que personne ne se sente visé, j'en ai pas fait exprès. Je perds mes cheveux aussi. Donc, c'est pas sûr que Élisée soit réellement chauve, parce que les commentateurs disent qu'il était encore jeune à cette époque. Il était encore jeune et il vit. Alors, il y en a qui avancent des chiffres qui m'ont semblé un peu forts, mais il vit encore longtemps après. Donc, simplement, statistiquement, c'est pas du tout probable qu'il était chauve. Et c'est d'autant moins probable qu'au Moyen-Orient, allez-y aujourd'hui, vous verrez que c'est vrai, les gens ne se promènent pas tête nue, sous le soleil. Ils venaient de faire un grand, quand même, marché une trentaine de kilomètres, 20 kilomètres à peu près, sous le soleil. Il n'est pas allé tête nue, surtout si en plus il n'avait pas de cheveux. Donc, les gens au Moyen-Orient, vous le voyez aujourd'hui, vous vous souvenez, Yasser Arafat avec son foulard, là, puis la bande là. Regardez les crèches, même, on voit bien dans les crèches, hein, ils ont tous les bergers, le voile et puis le sorte de corde là autour. Bon, donc un homme en voyage, pour un voyage comme ça, à pied comme ça, il ne va pas se balader tête nue, même s'il a des cheveux. Autre chose, Élisée portait le manteau d'Élie, c'était sa marque de fabrique un peu. Hein. Dans les premiers temps, il a emmené avec lui le manteau d'Élie, et le manteau d'Élie, il était connu. Parce qu'il était fait en poil de chameau et même le roi reconnaissait Élie comme ça. Ah, un bonhomme avec, vous vous souvenez, un bonhomme avec un manteau en poil de chameau. Donc, on le reconnaissait. Élie était visiblement connu à Bethel puisqu'il y avait une communauté de prophètes. D'après les commentateurs, Élie était à la tête de cette communauté. Il venait les visiter régulièrement et les instruisait. Donc, nos petits-enfants ne sont pas des ignorants. Ces jeunes gens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Ce Dieu qui avait consumé l'autel, le bœuf, le bois et la pierre au Carmel. Ils se moquaient bien du prophète Élie, ils le connaissaient, lui et ses miracles. Et de son successeur, bien entendu. Alors même quand ils disent « monte, chauve, monte », est-ce que c'est pas une allusion au départ d'Élie ? Il y en a qui se sont posés la question. « Allez, monte ! On veut te voir ! Il paraît que on m'a raconté ces bobards, là, qu'il a été enlevé. Bah, toi-y, allez, montre-nous ! Monte ! Monte ! » Pourquoi pas ? Il y a beaucoup de théologiens qui pensent ça. C'est vrai que ça tient la route. Débarrasse-nous le plancher. Ils sortent de la ville. C'est marrant parce que là, ils sont sortis de la ville pour parler. Les prophètes étaient sortis pour suivre Élie et Élisée et leur parler, puis ils sont rentrés chez eux. Ces petits jeunes, ils sortent de la ville dans le but de harceler et humilier Élisée et surtout de se moquer du Dieu d'Israël. Parce qu'il y avait un problème avec le Dieu d'Israël. Et c'est le problème qu'on a encore aujourd'hui. Jésus n'est plus physiquement parmi nous. On adore un Dieu qu'on ne voit pas. C'est tellement plus facile quand on a un veau d'or. Ah, c'est précieux l'or, ça brille. Puis voilà, on a quelque chose, on se représente notre Dieu. Nous, non, on ne le voit pas. Et donc, ces petits jeunes, ça c'est des histoires pour les grands-mères, c'est ce qui a amené Élisée à prononcer cette malédiction. C'est que Dieu était injurié. Dieu n'était pas à ses ordres. Il aurait pu ne pas répondre à la malédiction d'Élisée. Il n'était pas obligé de répondre. Hein. Ce n'est pas parce que M. Élisée a décidé de maudire ces jeunes que Dieu allait répondre immédiatement. Si ce n'était pas juste, on part du principe que notre Dieu est un Dieu juste. Vous savez, c'est le problème qu'on a aussi quand les enfants souvent nous posent cette question, mais même je l'ai eu de la part d'adultes. Oui, mais les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, alors ils vont aller en enfer ? Si je pars de l'idée que Dieu est un homme comme nous, oh, mince, quel problème! Mais si je pars de l'idée que mon Dieu est un Dieu juste, ben, il fera quelque chose de juste pour ces gens-là. Puisque c'est un Dieu juste, il tiendra compte du fait qu'ils n'ont jamais entendu, quand même, ce serait un comble. Je ne sais pas comment il se débrouillera, mais il se débrouillera. Et je lui fais confiance, parce que je sais que mon Dieu est un Dieu juste. Hein? Mais Dieu n'était pas à ses ordres. Et donc, si c'est un Dieu juste, le fait qu'il ait permis que deux ours s'attaquent aux enfants, c'est parce que c'était sérieux leur problème. C'est pas parce que c'était des petits-enfants qui voulaient faire une petite blague à un monsieur chauve. C'est parce que c'était des jeunes gens qui savaient très bien qui ils étaient, qui savaient très bien qui était le Dieu l'Éternel d'Israël, qui savaient très bien l'importance d'un prophète, qui venaient d'apprendre que Élie avait été enlevé au ciel, qui venaient d'apprendre que l'eau avait été guérie à Jéricho, qui venaient d'apprendre que le successeur c'était Élisée, qu'il avait traversé le Jourdain à sec, etc. Croyez pas que tout ça, ça suffirait pour dire au moins, bon, chacun ses croyances. Non, ils avaient envie de titiller le gars, de se moquer de lui, de le harceler. Parce qu'il se sentait fort, parce que dans la ville, il y avait une énorme proportion de gens idolâtres. Alors, ils étaient malins, hein, les Israélites, à cette époque-là. On adorait l'Éternel Dieu, et puis on adorait les idoles. Les deux ensemble, ça faisait bon ménage. Mais Dieu ne voulait pas de ça. Donc Élisée, lui, en personne, il ne tue personne, lui. D'ailleurs, moi j'aime bien ma traduction qui dit « les ours déchirèrent les enfants ». C'est-à-dire, bon, ils ont eu des blessures parce que quand on était aux États-Unis, il y avait des centres d'information où on voyait ce qu'était capable de faire un ours. Donc là, je pense que c'était plus petit, c'était certainement pas des grizzlies à cette époque-là en Israël, mais les petits ours noirs, etc. Vous savez, ils peuvent prendre une boîte à conserve d'un kilo, là. Ils la prennent comme ça et ils l'ouvrent comme nous, on ouvre un livre. C'est puissant, hein ? Et une claque d'ours, ça peut faire très mal, ça peut vous enlever un bras. Donc, malheureusement, il y a encore des accidents aux États-Unis et au Canada, hein, avec les ours, on en a. Quand on y était, il y en a eu. Bon, ça, j'aime pas trop les ours, sauf dans les eaux. Mais ils se sont attaqués à ces jeunes, 42 jeunes, et bon, ils ont dû distribuer des gifles et des coups de griffe, et bon, il y a peut-être eu des grands blessés, des moyens blessés, des petits blessés, mais genre, ça a été une drôle d'attaque sur ces jeunes. Alors pourquoi Dieu a permis ça ? Pourquoi Dieu a permis que Élisée maudisse et que lui, il a envoyé les ours ? Eh bien, à Bethel, ces jeunes gens qui rejettent Dieu, qui rejettent le prophète, ce qu'il rejette en fait, c'est la grâce de Dieu. C'est ça quand on rejette Dieu. C'est pas que Dieu est là, les vilains, il faut les punir. C'est quand on rejette la grâce de Dieu. Vous vous souvenez ce que j'ai dit l'autre fois? C'est comme une pièce de monnaie. Un côté c'est la grâce, de l'autre côté c'est la justice. Quand je rejette la grâce, qu'est-ce qui reste? La justice. À Jéricho, le prophète a démontré la grâce de Dieu en annulant la malédiction. Et à Bethel, il avait un autre public. Il avait tout à fait autre chose. Des gens qui rejetaient la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Il ne restait plus que la justice. Élisée va défendre l'honneur de Dieu, mais c'est Dieu qui exerce le jugement. Alors, ce n'est pas magique. Si Dieu avait voulu, il aurait pu ne pas approuver les paroles d'Élie, les paroles d'Élisée. Si c'était simplement une offense personnelle, admettons qu'il soit réellement chauve, ce dont je doute, je ne pense pas que Dieu serait intervenu avec autant de force. Mais là, l'attaque était vraiment dirigée contre qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous vous souvenez, au Carmel, c'était ça le problème. Vous allez savoir aujourd'hui qui est Dieu. De plus, la punition a dû parler aux autres habitants. Les Israélites ont pu constater qu'Élisée était un vrai prophète, qu'il apportait la parole de Dieu avec l'autorité de Dieu. La Bible n'approuve pas les moqueurs, entre parenthèses. Souvent, j'en ai parlé avec les adolescents il n'y a pas longtemps. On est un peuple de moqueurs, les Français. Gentils moqueurs, moqueurs humoristiques. Ok, mais on est un peuple de moqueurs. Et attention à la moquerie. Le psaume 1 dit que malheur à ceux qui s'asseyent sur le banc des moqueurs. En se moquant, ils ont manifesté leur hostilité à Élisée et leur opposition au culte de l'Éternel Dieu d'Israël. Alors attention, nos chrétiens, aussi à la moquerie. C'est pas quelque chose que Dieu aime beaucoup. Voilà. On pourrait se demander ce que ces deux textes nous enseignent. En fait, ce sont deux récits qui se complètent. C'est ça que je n'avais pas compris au début. Je n'avais pas trop envie de le faire. Si on y regarde de près, on comprend mieux. Et la grâce de Dieu qui brise la malédiction et le jugement. Quand on refuse la grâce, qu'est-ce qui reste? C'est les récits d'habitants de deux villes qui vont vivre à peu près la même chose. Le passage des prophètes, une rencontre dans chaque ville, puis le retour d'Élisée qui retraverse tout seul les mêmes villes. Et les attitudes sont complètement différentes. À Bethel, c'est le lieu où Dieu a parlé à Jacob, la vision de l'échelle, vous vous souvenez? Un lieu qui a été béni au départ, promesse de bénédiction pour lui et sa descendance. Josué va en prendre possession de Bethel, Samuel va y siéger en tant que juge en Israël. On y présentait des offrandes à Dieu. Mais plus tard, Jéroboam va y installer un veau d'or. C'est une ville qui au départ était bénie et qui est tombée dans l'idolâtrie. Jéricho, c'est tout le contraire, une ville païenne, conquise, rasée par Josué, maudite par Josué, la malédiction s'accomplit, mais quand Élisée passe, ils vont vers lui, ils le suivent, ils cherchent, ils réfléchissent. Voilà. Donc ça, on l'a vu, on a vu les différences de comportement. À Bethel, personne ne descend au Jourdain. Lors du retour d'Élisée, ce sont les jeunes qui sortent de la ville pour aller faire les fous. De plus, ils le suivent pour le harceler, se moquer de lui. Les prophètes ont dû savoir ce qui s'est passé au Jourdain, puis à Jéricho. Ils ne s'inquiètent pas d'Élie. Élisée porte le manteau d'Élie, signe de la succession, mais ça ne sert à rien. Rien n'y fait. Ils étaient sortis pour questionner Élisée, mais là, ils ne bougent pas, les prophètes. Donc, à Jéricho, Élisée a brisé la malédiction. À Bethel, il se voit obligé de maudire ces jeunes qui se moquent de l'Éternel Dieu d'Israël. Alors, ce n'est pas la malédiction sur Jéricho qui va déterminer le sort de la ville pour toujours. Ça, c'est beau quand même. Ils font confiance à Dieu, à Jéricho, à celui qui l'envoie, et leur malédiction est brisée. C'est l'attitude des prophètes de l'Éternel et des habitants qui va permettre cette bénédiction. Par contre, à Bethel, lieu béni depuis Jacob, et dont le peuple d'Israël connaît l'histoire, ils n'ont pas persévéré dans la bénédiction du Seigneur. Ils ont accepté le veau d'or, ils ont accepté l'idolâtrie, ils n'ont visiblement pas inculqué à leurs jeunes le minimum de respect de Dieu et de ses serviteurs. Donc, voyez, En fait, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux textes? Je me suis vraiment posé des questions, j'avais même dit, en vrai, je ne vais peut-être pas les faire. En fait, il y a une opposition. Et vous savez, dans la Bible, vous allez remarquer que très souvent, les écrivains hébreux, hein, aiment bien mettre les choses en opposition. C'est curieux, le bien et le mal, les différences d'attitude, etc. Et ces fameux chiasmes, c'est un procédé où les choses vont dans un sens et elles sont reprises, mais dans l'autre sens. C'est exactement, on a un petit peu ça là. C'est pas moi qui ai trouvé ça toute seule. C'est un théologien de Suisse, Arnold, qui fait ça. Et c'est vraiment impressionnant parce que souvent Dieu utilise des contrastes comme ça pour nous parler. Jéricho, Bethel. La foi, la recherche de Dieu, malgré la malédiction. Le fait d'abandonner Dieu, malgré la bénédiction. Vous avez exactement les contraires. Hein? Voilà. Donc, ces deux textes sont là pour nous montrer deux attitudes différentes. Et les conséquences de ces deux attitudes. Ceci étant, vous savez, aujourd'hui, on n'a plus les prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient reçu de Dieu une très très grande autorité. C'est fini. On n'a plus ce genre de prophète aujourd'hui, mais on a Jésus. Et Jésus est celui qui brise la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Il brise la malédiction. Il a été fait malédiction pour nous à la croix. Donc il suffit de faire comme les habitants de Jéricho. Croire en sa bonté et sa puissance, aller vers lui, lui confier nos problèmes, et il va briser nos malédictions. Et il va nous conduire dans sa grâce. Amen.